C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute.
Le lundi 21 février, bonne journée. Beaucoup de choses ce matin. D'abord, bien évidemment, Ottawa qui retrouve son calme. On est dans une opération, on passe le balai pour ramasser les cochonneries qui traînent depuis l'opération policière de la fin de semaine. D'abord, il faut dire, je pense, que c'est une opération impeccable des policiers. C'est un déploiement imposant, mais une opération méthodique, lente, mais également stratégique dans le sens où on voulait pas d'affrontement direct, on voulait pas de débordement. Et on a joué avec le tempo, avec la cadence tout au cours de la fin de semaine. Et bref, ça s'est très bien passé. Quand on regarde le bilan qui a été présenté hier par les autorités, on se retrouve quand même avec un bon nombre de véhicules qui ont été remorqués, c'est-à-dire 79 véhicules, 191 personnes qui ont été arrêtées. Il y a eu des accusations également, 389, ça veut dire qu'il y en a qui ont plusieurs accusations, là. Au total, il y a des enquêtes qui continuent. Et il y a des manifestants qui ont tenté un peu de jouer avec la police hier, c'est-à-dire en quittant Ottawa, puis en allant s'installer un peu plus loin, puis en se regroupant, et avec l'espèce de promesse de revenir. Alors, ce qui n'est pas le cas, parce qu'entre autres, même si on a rouvert les rues dans le centre-ville d'Ottawa, il y a encore, notamment autour du Parlement, des barricades, des points de contrôle, ce qui fait que l'accès, et ça va durer, j'imagine, un certain temps, là, est davantage contrôlé. Imaginez si on avait eu la même stratégie, c'est-à-dire empêcher les camions de s'immobiliser devant le Parlement puis créer ce jeu de Tetris, ça n'aurait pas duré 3 semaines. Et ce qui est très frappant, puis c'est vrai là dans la manifestation à Ottawa, c'est de voir, je me souviens au départ, là, on parlait de camionneurs qui n'étaient pas contents de se faire imposer une vaccination obligatoire pour les voyages transfrontaliers. Puis il y a toujours un argumentaire qui pouvait se défendre. On n'est pas capable de l'imposer au réseau de la santé avec des infirmières puis du personnel soignant. Comment peux-tu l'imposer à des camionneurs qui voyagent puis qui peuvent passer un test peut-être ou bref, pourquoi ça? Puis tu sais, c'est un débat puis ça a le mérite de pouvoir se faire. Mais là, on est tombé dans tes théories du complot. Puis là, un paquet de groupes, notamment des radicaux de droite, venant beaucoup de l'Ouest canadien, d'Alberta en particulier, ont pas mal pris le contrôle de l'affaire. Le fameux Wright, là, qui s'est fait aller, qui a été arrêté aussi. On va en reparler avec Fabrice de Pierrebourg un peu plus tard, mais c'est intéressant de voir qui sont-ils, qui les finance et qui sont les gens qui sont peut-être les figures de proue, puis qu'est-ce qu'ils revendiquent? C'est le renversement du gouvernement ou en tout cas une forme d'insurrection. Alors, on va vous parler de ça ce matin. Puis, Elisabeth va revenir sur la désinformation. Écoutez, moi, je veux bien, là. Puis, c'est pas un dialogue possible quand vous mettez des conneries sur les réseaux sociaux. Et, exemple, hier, là, j'ai une photo qui circule qu'on m'a envoyée je sais pas combien de fois pour illustrer la brutalité policière, pour montrer comment la police, là, un genou dans le cou d'un manifestant, c'est dégueulasse. Puis, tu regardes la photo, il n'y a pas un flocon de neige. C'est pas une photo du bon événement. Puis vous partagez ça comme si c'était la vérité absolue. Tu sais, c'est quand même, là, ça c'est un exemple parmi d'autres. L'autre chose, ça s'est bien terminé, mais la présence d'enfants comme outil, et je pèse mes mots, là, comme outil pour manifester, je trouve ça en dessous de tout. C'est pas acceptable de servir d'enfant en sachant que ces enfants-là, puis lâche-moi, là, je veux montrer la démocratie à mes enfants parce qu'on vit dans une dictature, là, fait partie, puis on l'a vu dans d'autres types de manifs, là, d'un dissuasif pour les policiers. Et je le répète, les policiers ont fait un travail impeccable en fin de semaine et ça pouvait potentiellement dégénérer. Entre-temps, à Québec, ça s'est bien fait. C'était festif. Il y avait une espèce de côté, je dirais, de fête populaire. Les discours, les mêmes revendications aussi, mais ça arrive dans un contexte où il y a moins de choses à demander, entre vous et moi, là. On l'a vu avec le calendrier où le passeport vaccinal va finir par disparaître à la mi-mars, puis là, vous avez des manifestants qui disent « Ouais, mais on croit pas ça, puis on pense avoir revenir. » Mais en tout cas, 14 mars, Exemple, aujourd'hui, on le voit pour les résidences pour personnes âgées. Enfin, la liberté pour les vieux, c'est-à-dire de recevoir plus de monde pour des activités puis d'avoir une vie communautaire plus intéressante. Et les témoignages que j'ai reçus de gens qui ont trouvé ça non seulement pénible, mais qui ont été durement affectés par ce confinement, pas juste de ne pas voir leurs enfants, de ne pas pouvoir échanger avec d'autres, d'être limités dans ce qu'ils pouvaient faire à l'intérieur de leur résidence pour personnes âgées. Alors, c'est une bonne nouvelle, parce qu'il y a des gens qui m'ont écrit en fin de semaine en disant « Hey, comment ça se fait que c'est pas commencé? » Bien, ça prend une date. Puis la date, c'est aujourd'hui. Ça peut aller jusqu'à 10 personnes à l'intérieur des établissements. Et tant qu'à féliciter des gens aussi ce matin, le maire Marchand puis la police de Québec, ils ont fait encore là une super job. Et les manifestants disent « Bien, on va peut-être revenir et tout ça. » Peut-être. Mais encore là, pas d'affrontement, pas dégénéré. Ça n'a rien à voir avec Ottawa. Et l'espèce d'image que ça donne, c'est quand même épouvantable. Un centre-ville bloqué pour emmerder les citoyens, t'sais, leur liberté au profit d'un mouvement qui va comme ça limiter celle des autres. Parce que c'est pas une manif, là. T'sais. On n'est pas dans « je manifeste pacifiquement ». Je t'écœure, je bloque, je force la fermeture de tes commerces. Puis si toi, tu penses pas comme moi, ben je vais te bousculer, je vais te menacer, puis je peux devenir agressif. C'est ça qu'on a vu aussi, là. T'sais, oui, il y a des gens très corrects, puis il y a des manifestants, puis j'en ai vu plein à Québec, là. Mais il y en a d'autres qui ont de la misère à accepter qu'on ne soit pas tout à fait d'accord, qu'on ne soit pas tout à fait sur la même longueur d'onde concernant ces manifestations. Et puis à Ottawa, en principe, donc, on va voter pour cette loi donc sur les mesures d'urgence. On sait que le Parlement n'a pas siégé samedi. Et les travaux ont repris hier et puis on se retrouve donc avec un vote probablement en soirée. Est-ce que la loi est encore utile? Est-ce qu'on va l'amender? On va regarder ça au cours de la journée. On regarde ce qui se passe évidemment en Ukraine. Il y a encore un effort diplomatique. Le président français Emmanuel Macron qui a proposé rencontre ou réunion au sommet entre le président Biden et le président russe Vladimir Poutine. Là, dans les dernières heures, il semble que le Kremlin a mis un bémol là-dessus. C'est pas non, mais c'est peut-être pas nécessaire ou c'est peut-être pas le moment. Alors, tout ça pour éviter qu'il y ait invasion. Puis vous avez vu le discours qui a continué en fin de semaine, notamment des Américains qui disent que c'est une question de temps. Et encore là, des tirs d'artillerie, on a vu entre les Ukrainiens et également les séparatistes qui sont soutenus par les Russes. Donc, un sommet avec, je dirais, tous les gens impliqués sur la stabilité, la sécurité stratégique en Europe. Alors, il faut dire que le secrétaire d'État américain Blinken et le ministre russe Lavrov doivent se rencontrer cette semaine pour préparer le contenu de cette rencontre. La condition américaine, c'est de dire, si vous envahissez l'Ukraine, évidemment, on ne pourra pas le faire. Alors là, c'est toujours cette espèce de jeu entre Poutine et le reste du monde en déplaçant ces blocs militaires le long de la frontière, en laissant, et ça fait partie de l'arsenal de guerre maintenant, courir toutes sortes d'informations en disant « je retire des troupes » alors qu'ils les déplacent. Puis vous avez vu les images probablement de ces reportages où les citoyens sont inquiets, sont armés. Je regardais ce matin des gens qui sont des personnes âgées en Ukraine qui se retrouvent dans un secteur, je dirais, très vulnérable, Donbass. Alors, deux grands-mères qui prennent le soleil, 81 ans, 77 ans, et elles sont les seules qui sont à peu près dans le village parce que les gens ont peur puis les gens sont allés se cacher. Jean-François Lépine va nous décortiquer tout ça puis les nouveaux développements ce matin. Là, j'aborde la question qui, sans doute, vous trotte dans la tête le plus, c'est-à-dire comment faire pour boucler mon budget. J'en ai parlé pas mal dans les derniers jours avec l'augmentation, taux d'inflation, le prix des aliments. Vous avez, en vous promenant sur le réseau routier, le prix de l'essence dans le visage et les augmentations, quoi, c'est stable actuellement, mais on est à 1,70 $, puis on pense que peut-être durant l'été, ça va toucher le 2 $ le litre. Puis on sait que c'est la période de déplacement, la période des vacances. Alors, ce matin, on a un sondage léger qui est publié dans le Journal de Montréal. Puis là, on n'est pas surpris que la hausse des coûts préoccupe les gens. Et que c'est bien beau, là, les mesures sanitaires, c'est bien beau d'autres types de problèmes plus philosophiques des fois. Mais dans le concret, là, il y a des gens qui regardent ça. L'accès au logement, le prix de l'essence, le prix de la bouffe, le prix de l'électricité. Et il y a donc eu une inquiétude. 86 % des gens se disent inquiets. 37 % donc c'est un peu plus que le tiers, là, disent avoir remplacé au cours des dernières semaines certains achats de nourriture pour des trucs moins chers. Je sais pas si vous en êtes rendu là, mais c'est quand même là. Puis on le voit quand on fait les courses, là, puis on parlait de couponing la semaine dernière. Tu peux avoir des stratégies pour essayer de payer moins cher. Mais c'est quand même inquiétant. 7 Québécois sur 10 se disent donc préoccupés par le coût des éléments, là, des aliments, 94 % L'hypothèque, plus t'es jeune, plus t'es inquiet parce que t'en as encore plus sur le dos. Puis l'accès à la propriété est encore plus difficile. Des gens pour qui, ça fait plusieurs années qu'ils payent, qui ont peut-être des revenus stables, le stress est moins élevé. Mais incluons aussi les gens qui ont des revenus fixes, des retraités, des revenus de pension, qui se retrouvent donc avec des factures à payer beaucoup plus élevées. Alors, on peut lire ça ce matin dans le Journal de Montréal. Une histoire bizarre, toujours dans le Journal de Montréal. Un sous-ministre qui a accordé un contrat dans le cadre de l'urgence sanitaire, donc sans appel d'offres, sous-ministre à la Santé, un contrat chez Deloitte, un contrat de 23 millions. Le sous-ministre en question s'appelle Jean Maître. Il est à la direction des projets spéciaux. C'est un ancien de Deloitte, puis il a donné le contrat à un de ses amis chez Deloitte, 23 millions. Pourquoi exactement? Tout indique que c'était pour optimiser la prise de rendez-vous pour le dépistage de la COVID et transmettre le résultat aux personnes. Donc, il y avait un besoin là, il fallait faire vite. Il a travaillé chez Deloitte, il connaît du monde chez Deloitte, puis il donne le contrat chez Deloitte. Et là, des gens dans l'industrie prétendent qu'on a payé beaucoup trop cher, qu'on aurait dû aller en appel d'offres. Québec va répondre, on n'avait pas le choix, fallait procéder rapidement. Quoi qu'il en soit, le murmure ou le bruit dans ce milieu-là, c'est de dire que Québec a payé peut-être 7, 8, 9 millions de trop. Alors, vous pourrez lire ça dans le Journal de Montréal. On va revenir aussi plus tard ce matin sur la crypto-monnaie. Il y a Maxime Bergeron dans La Presse qui fait l'inventaire de ce phénomène, c'est-à-dire qu'on a 270 guichets automatiques de crypto-monnaie qu'on retrouve dans des dépanneurs, des motels puis des buanderies. Puis on peut faire des transactions jusqu'à 1000 $ par jour, c'est-à-dire convertir ces sommes-là en bitcoins. Et ça laisse pas de traces. Fait que pour le blanchiment d'argent, vous comprenez que c'est parfaitement utile. Puis, prends l'exemple là, d'un motel sur la rive sud. Les chambres se louent 59 $ la nuit. J'entends que c'est sans doute plus à l'heure que ça fonctionne. Mais alors, il y a dans ce motel en question un guichet. Et donc, ces transactions-là, puis tu peux, tu peux en faire plusieurs. Mettons que tu aurais beaucoup d'argent à blanchir, là, c'est 1000 par jour par guichet. Puis ça se parle pas, ces guichets-là. Alors, nouvelle façon de blanchir de l'argent. Radio-Canada nous dit que, pas étonné, que le toit du stade, le nouveau toit du stade olympique, sera pas installé avant un bout de temps. Toutes sortes de raisons, là. C'était prévu pour 2024. La pandémie, la cause première, dit-on, quoique ça a le dos large. Mais il y a peut-être un problème de conception, il y a peut-être un problème de budget, je ne le sais pas trop. Il y a personne qui parle vraiment, mais c'est un toit qu'on doit remplacer. Puis imaginez, là, à l'époque, on disait que ça coûterait probablement, puis on n'avait pas de détails précis sur la facture, là, mais quelque chose comme 200 quelques millions. Mais là, toujours pas de plan, en tout cas de connu, et on se retrouve avec, disons, encore un report sans doute à être confirmé aujourd'hui. Et je vais terminer en vous parlant de la série qui est présentée sur Bell, sur Crave, en fait, sur la commission Charbonneau, une série documentaire. 5 épisodes. J'ai écouté ça en fin de semaine. Maître Denis Galland sera avec nous. Puis un peu plus tard, André Noël, qui a été à la commission aussi, mais qui est un des créateurs de cette série documentaire. C'est très bien fait, mais surtout, c'est de voir dans un montage serré et en accéléré les 4 ans de travaux à peu près. Là. On se souvient tous des grands classiques, là, un chum, c'est un chum, puis la mafia, je connais pas ça, M. Migliotto. Mais on en a oublié quelques bouts. Et quand tu écoutes ça, d'abord, on peut dire que ce ne sont pas toutes les recommandations de la commission Charbonneau qui ont été appliquées, mais c'est soulevé aussi dans le documentaire. Mais là, tu te dis, OK, on a mis quand même, on a fait des changements de règles, je pense à la ville de Montréal, pour s'assurer qu'il n'y ait pas cette espèce de corruption à l'interne, puis que ça se fasse. Disons de façon là aussi sans surveillance qu'on a vu pendant des années. Puis je dois dire, j'ai été très touché par le témoignage de l'ancien vérificateur de la ville, M. Bergeron, Jacques Bergeron, qui a reçu des menaces parce qu'il est en train, justement, de mettre son nez puis de voir un peu ce qui se passait. Mais tout ça pour dire, en conclusion, je vous le suggère fortement, mais là, tu te dis, qui actuellement est en train de magouiller? C'est pas parce que tu changes les règles. La mafia a toujours autant d'argent à blanchir. Les motards ont de l'argent à blanchir. Ils ont vu les stratagèmes. Et une des caractéristiques des organisations criminelles, c'est toujours de s'adapter. Les règles changent. On se fait tasser. On est plus tranquille. Mais peut-on penser sérieusement que toutes les magouilles ont disparu de l'industrie de la construction? Puis l'octroi de contrats publics, c'est peut-être plus compliqué, c'est peut-être différent. Mais comme disait Franck Charbonneau dans la série, peut-être que dans quelques années, on va organiser une autre commission, encore une fois, sur l'octroi des contrats publics.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause. L'Essentiel de Paul Arcand. Tout ce que vous devez savoir en moins de 60 minutes.
Alors, le siège d'Ottawa s'est terminé, on peut dire, pratiquement dans la nuit de samedi à dimanche. Hier matin, il y avait encore quelques manifestants. Hier, dans la journée, des camionneurs qui sont allés, disons, se regrouper à quelques kilomètres d'Ottawa. Et donc, une opération policière d'envergure qui a été menée, je fais le point avec Marcel Savard, l'ancien directeur adjoint de la Sûreté du Québec. Monsieur Savard, bonjour.
Bonjour, M. Arcand.
Vous qui êtes l'expert, moi qui regarde ça comme tous les citoyens, on a l'impression, en tout cas, que c'était une opération policière bien menée, bonne cadence, méthodique, efficace, et que finalement, il n'y a pas eu d'affrontement là, trop violent avec les manifestants.
Non, quand on regarde ça après coup, là, on peut dire que toutes les phases qu'on avait prévues, vous savez, on a parlé depuis 20 quelques jours qu'il y avait un plan d'opération, il existait. En fait, il existait probablement depuis les 10 derniers jours. Est-ce qu'il existait en début d'opération? Ça sera vraiment aux enquêtes à le dire par la suite, là, aux commissions et aux enquêtes. Mais à partir du moment où il y a eu un changement de garde, précisément, il y a eu un nouveau directeur par intérim, et là, on a senti qu'il y avait vraiment un momentum, un plan d'opération structuré, organisé. On voulait laisser les gens manifester, mais on savait exactement où on s'en allait. Et M. Bell s'est rapidement avancé quand il a dit que les citoyens ne revivraient pas le même genre de fin de semaine dans celle qui suit que toutes les autres. Et on a vu ça. C'est ce qu'on a vu. Puis, je veux dire, ça a été très progressif. Hein? Le premier, là, le vendredi, c'était calme, c'était posé, mais on sentait là, qu'il y avait un changement dans l'attitude puis dans la chronologie des événements qui étaient poursuivis. On sentait ça. Et puis, je suis content d'avoir vu cette progression-là, parce qu'au début, là, c'était un peu décourageant.
Dites-moi, les gens qui regardent ça, qui ont vu la semaine précédente à Paris, les CRS y aller avec les gaz lacrymogènes pour chasser les gens dans les rues, pour, comme on dit, traquer le manifestant, regardent ça en disant, comment ça se fait que des policiers font ça, puis nous autres, on a comme une approche tout à fait différente?
Ouais, ça remonte à longtemps, là. Je veux dire, je sais pas quel âge vous avez, mais moi, je suis capable de me positionner dans le temps, là. Si on se rappelle même mai 68, pour ceux qui ont vérifié les images disponibles encore, déjà là, on avait une philosophie totalement différente là, des manifestants. Puis ça fait partie un peu du modèle d'emploi de la force en contrôle de foule que les Européens, les Français utilisent, c'est-à-dire que pour eux, la dispersion devient extrêmement importante très rapidement, alors que chez nous, on passe souvent par la stratégie d'encadrement. On va d'abord encadrer tout ça. Excuse.
Il y a des carrés rouges. Oui, j'allais dire, il y a des carrés rouges qui m'ont dit nous, ils ne nous auraient pas traités comme ça. Des étudiants de l'époque. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui. Écoutez, je suis obligé de ne pas être d'accord parce que à partir du moment, là, la stratégie d'encadrement, c'est tout le temps avec celle-là qu'on débute toute cette espèce de manifestation, comment ça va se dérouler. On part avec une stratégie d'encadrement qui est vraiment de laisser les gens manifester. À partir du moment où il y a des actes d'agressivité, des actes de violence, on commence à projeter des projectiles, et moi j'ai vécu là, des balles de billard lancées avec des bonnes nylon là, pour leur donner de la vélocité, des roulements à billes lancés avec des rondes puis des slingshots, comme on appelle là. À partir du moment où il y a de l'agressivité puis il y a des projectiles lancés, les policiers vont tomber rapidement dans une stratégie de dispersion de foule. Et je me rappelle très bien, moi, dans les étudiants, il y avait des manifestations étudiantes qui se déroulaient, puis ça passait calmement, puis il n'y avait pas de dispersion de foule. Mais à partir du moment, on a tous à l'esprit là, certains moments de cette époque de manifestations étudiantes. Là. Il y a des moments qui sont plus forts, mais ça a toujours été parce qu'il y avait une agression, d'agressivité, des projectiles lancés. Les policiers, à un moment donné, ils ne peuvent pas. Je veux faire attention, M. Arcand, là, parce que je ne veux pas cautionner le fait qu'il y a une tolérance à certains projectiles parce que les policiers sont bien protégés. Là, je dois le dire, les policiers sont bien protégés. En dessous des habits, là, il y a de la protection, mais il y a une. Il faut faire attention. C'est pas un cautionnement de dire, ben, il y a. À un moment donné, oui, on va tolérer que ça lance, là, puis à un moment donné, on va dire non, mais ils sont protégés, puis on regarde ça aller, puis est-ce qu'il y a danger pour leur intégrité? Quand on répond oui à ça, c'est certain qu'il va y avoir dispersion de foule. Qui dit dispersion de foule dit utilisation de différents moyens. Je vous dirais à Ottawa, là,
oui.
On a vu les bâtons de contrôle de foule être utilisés pour repousser. On a vu des irritants chimiques de deux types être utilisés. On a vu la cavalerie être utilisée. Fait que, oui, c'est tout le temps en fonction de l'agressivité, parce que la culture ici, pour revenir à votre question initiale, qui était un peu une comparaison, là, la culture ici, c'est d'abord de laisser manifester. Après ça, on regarde le comportement de la foule, puis on va ajuster, puis c'est déjà prévu dans les plans d'intervention, dans les règles d'engagement, comment est-ce qu'on va engager cette foule agressive.
Il y a un enjeu dont que je veux discuter avec vous, la présence des enfants. On est tous d'accord là que c'est une technique, même s'ils vont dire que c'est pour les initier à la démocratie puis leur faire vivre des grands moments historiques là, que les enfants deviennent des boucliers. Les enfants sont utilisés par les adultes avec qui ils sont. Comment la police peut faire pour les extirper de là sans que ça dérape? Est-ce que, d'après vous, on savait exactement, à tout moment et précisément, où étaient les enfants pendant qu'on faisait l'opération vendredi et samedi?
Bon, est-ce qu'on le savait d'une façon précise à 100%? La réponse à ça, c'est non. C'est impossible à connaître d'une façon précise. Maintenant, est-ce que les observateurs qu'on a vus sur les toits, parce qu'on les a bien vus sur différents toits, c'est leur rôle de regarder la foule, de regarder ce qui est présent. Ils ont des jumelles. Ils ont deux rôles, en fait, les observateurs. D'abord, c'est d'observer. Puis le deuxième, c'est d'intervenir si, à un moment donné, il y avait vraiment quelqu'un qui aurait une arme à feu ou une violence telle qu'il faudrait intervenir directement sur cette personne. Mais oui, on le sait, on le voit. Ces observateurs-là nous permettent vraiment de cibler. Après ça, ben comment on intervient? Moi, je pense que l'attitude des policiers, ça va être tout le temps d'isoler ces enfants-là. Puis la difficulté va venir lorsqu'il va y avoir des chaînes humaines. On a vu ça à Windsor, là, une chaîne humaine bâtie autour des enfants. Les enfants se tenaient en première ligne. Les policiers vont être patients, M. Arcand. Les policiers, là, ils n'iront pas confronter puis commencer à avancer petit pas par petit pas, alors qu'il y a une ligne d'enfants là, qui est le plus vieux que j'ai vu à Windsor, devait avoir à peu près une dizaine d'années, pas plus, là. Fait que les policiers vont être patients, ils vont entendre, et puis à un moment donné, si on a l'occasion à certains moments d'isoler des familles avec des enfants, parce qu'ils ont des parents et des tuteurs sur les lieux généralement, là, ils sont pas laissés à eux-mêmes. Mm-hmm. Là, on va les isoler, puis on va les retirer calmement du secteur, mais c'est dans les pires scénarios. Puis je veux dire, je reviens à votre comparaison. Je me rappelle pas dans les dernières manifestations d'avoir vu ce scénario en Europe.
La présence d'enfants?
À Paris, là, j'ai
non,
pas
je pense
vu
pas.
Ça. Dans les... Non, j'ai pas vu ça. Je regarde ça, je suis ça pas mal là pour être capable d'en parler. Puis je me rappelle pas. Vous voyez, c'est deux cultures différentes. Ici, on a exporté, importé, c'est-à-dire cette technique-là, de certains groupes qui étaient nord-américains. Et puis là, ben, ça devient comme une petite habitude. Mais écoutez, c'est une opinion personnelle. C'est irresponsable complètement parce que on se dit, bon, ben, si nous, on n'est pas capable d'empêcher une dispersion de foule, nos petits-enfants vont être capables de le faire.
On a vu ça, notamment dans des mouvements, une espèce de secte religieuse où il était entouré par des policiers, puis on mettait les enfants pratiquement, comme vous dites, sur la première ligne. Là, ça a procédé.
Ouais, Puis imaginez, là, tu sais, je veux dire, il faut tout le temps essayer de tu sais, bon, oui, c'est une structure, c'est une rigueur, c'est une machine qu'on a vu très efficace en fin de semaine, mais rappelez-vous, là, que les 50 policiers, là, qui sont sur la première ligne, là, en dessous de l'habit, là, puis du casque, puis du bâton, puis des gants, puis des bottes protégées, puis en tout cas, il y a un être humain qui est père de famille, là, qui est là.
Puis qu'il y a des enfants en face de lui.
Il voit les enfants en avant de lui. Là.
Ouais.
Fait que lui-même, il entend dans ses oreilles, tu sais, fait qu'il entend dans ses écouteurs d'oreilles, OK, on avance d'un pas. Puis là, t'as un chef d'équipe en arrière qui va répéter stand-by, peloton, immobile. Ça veut dire qu'il y a un chef d'équipe qui est, lui, sur les lieux parce que les commandements, ça arrive du centre de commandement. Ça arrive, tu sais, c'est des gens, ils voient des images à cause des drones, à cause des caméras, à cause de, bon, un paquet de trucs. Ils sont pas sur la ligne, là. Les gens qui ont le jugement, là, pour décider si on continue d'avancer, c'est les gens sur la ligne avec les chefs d'équipe, les superviseurs. C'est eux autres qui ont la connaissance fine de ce qui se passe.
Merci, M. Savard. Très apprécié.
L'essentiel de Paul Arcand. Tout ce que vous devez savoir en moins de 60 minutes.
C'est sûr que le visage de la colline parlementaire du centre-ville d'Ottawa a changé depuis les dernières heures. C'est une opération ce matin de retour au calme, je dirais opération de nettoyage, mais on le voit autour du Parlement, on a installé des postes de contrôle. Je fais le point avec Yannick Saint-Denis, qui est sur la rue Bank au centre-ville d'Ottawa. Bonjour Yannick.
Bonjour Paul.
Alors donc c'est vrai, là, c'est le retour au calme, il faut faire encore du nettoyage, mais disons que là on veut pas revoir le même type de scénario, ce qui fait que on protège certains quadrilatères.
Oui, en effet, parce que, bon, on sait que peut-être qu'il y a encore des manifestants en périphérie qui pourraient arriver par derrière et vouloir se réinstaller ou foutre le trouble un peu, si vous me permettez l'expression. Donc, on reste très prudent du côté de la police d'Ottawa. On défait quelques barricades par secteur présentement, dont le secteur de la rue Sussex et de la rue Rideau, tout près du Château Laurier, du centre Rideau également, vraiment où l'action s'est passée principalement vendredi. Présentement, ce quadrilatère est libre, mais le reste de la rue Wellington, donc devant le Parlement jusqu'à la Cour suprême, ça, c'est encore barricadé, de grandes clôtures sont toujours là, une grande présence policière aussi. On s'affaire à faire le ménage, à déneiger les rues, évidemment, avant d'enlever tout ça, mais on veut surtout s'assurer que c'est encore sécuritaire de le faire pour l'instant. Et donc là, on verra quelle est la stratégie des policiers qui ont été très actifs, faut le dire, en fin de semaine, à savoir quand est-ce qu'on enlève ces barricades pour redonner un peu la rue Sparks, une rue piétonne qui est très touristique aux gens, et également la rue Wellington, où plusieurs gens y circulent également pour prendre des photos avec le Parlement et autres instituts parlementaires canadiens.
Bon, maintenant, est-ce que les commerçants vont pouvoir ouvrir, là, je pense, aux gens qui sont propriétaires de boutiques, de restaurants, est-ce que, la vie commerciale va reprendre?
sa vie commerciale va certainement reprendre dans les prochaines heures, prochains jours. Je reste plus prudent dans mes propos parce que c'est encore compliqué d'arriver dans le centre-ville d'Ottawa. Encore des sorties d'autoroute qui sont bloquées, plusieurs contrôles policiers aussi qui contrôlent entrée et sortie. Mais par contre, je vous parlais de ce quadrilatère Sussex-Rideau, tout près du centre Rideau. Ça, c'est 1500 employés, mais même un peu plus, qui ne travaillent pas depuis maintenant 3 semaines. Donc, certainement qu'on voudra reprendre l'économie dans ce secteur-là le plus rapidement possible. Même chose pour tous ces commerces dans le marché bail, qui est un endroit très touristique où les gens dépensent de l'argent dans les commerces locaux, les différents petits restaurants et commerces de souvenirs, par exemple. Donc ça, je peux m'attendre à ce que ce soit ouvert dans les peut-être demain, dans les prochains jours. Et ensuite, bien, il y aura la rue Sparks et les autres commerces. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui en Ontario, c'est la journée de la famille. Donc plusieurs commerces auraient de toute façon été fermés, plusieurs bureaux sont fermés. Donc il y a peut-être une moins grande presse à ouvrir aujourd'hui en Ontario.
Merci Yannick Saint-Denis qui nous parlait en direct donc de la rue Bank au centre-ville d'Ottawa. Maintenant, Fabrice de Pierrebourg, vous le savez, était sur place vendredi. Et au-delà de l'enjeu de départ de cette manifestation, on s'est rapidement rendu compte qu'il y avait des gens qui étaient en train d'utiliser cette manifestation de ce qu'on appelle donc des gens de l'extrême droite ou de la droite radicale, mouvement qu'on a vu aux États-Unis et mouvement qui prend de l'ampleur aussi au Canada avec, entre autres, vous avez vu l'arrestation de 3 ou 4 des leaders. Et Fabrice, on peut dire d'entrée de jeu là que ce qu'on a vu en fin de semaine, dans le fond, c'est l'aboutissement d'un long processus où des gens frustrés pour toutes sortes de raisons se sont radicalisés.
Oui, puis Paul, je pense que ça doit être considéré comme un sérieux avertissement parce que c'était vraiment le point de ralliement de la large mouvance de la droite radicale qui était venue de tout le Canada, y compris du Québec, avec, faut le dire, des fantasmes, on va dire, insurrectionnels et de renversement du gouvernement. Alors même s'il n'y a pas eu de violence, comme on a pu le voir aux États-Unis au Capitole en janvier 2020, que beaucoup de camionneurs avaient probablement des intentions pacifiques, on a franchi un nouveau cap. Et on peut être très surpris que personne au gouvernement fédéral et surtout au niveau local, le maire d'Ottawa et son ex-chef de police, n'est semblé avoir pris dès le début cette menace au sérieux. Le Guardian, le quotidien britannique, a révélé jeudi que les autorités locales avaient reçu en janvier 2 rapports de renseignement qui les alertaient de l'implication justement de radicaux, dont des activistes prenant la guerre civile et de groupes extrémistes, en particulier conspirationnistes. Et la crainte était, écrivait-on, aussi que ce soit le point de déclenchement, une opportunité permettant à des attaquants isolés potentiels de mener une attaque terroriste. C'est pas anodin. Or, Paul, ça fait 2 ans. Depuis le début des mesures anti-pandémie, que le renseignement canadien lève un drapeau rouge et surveille ses radicaux avec tous les outils d'enquête dont il dispose, hein, filature, écoute, etc. Et que cette surveillance a continué pendant la manifestation afin d'évaluer les menaces potentielles à la sécurité. Et dans le passé, souvenez-vous, on avait obtenu plusieurs rapports rédigés par les analystes du SRF et du Centre intégré d'évaluation du terrorisme, diffusés dans toutes les sphères du gouvernement, qui tous alertaient de la radicalisation exponentielle de tous ces mouvements d'opposition aux mesures sanitaires, aux vaccins, et surtout, et là on y est, de la récupération de la pandémie par les extrémistes violents de droite pour promouvoir leur discours xénophobe, accélérationniste, anti-gouvernement, et surtout attirer de nouveaux adeptes, quoi. Et dans un de ces rapports, on visait notamment le Québécois Alexis Cossette-Trudel et sa chaîne vidéo Radio-Québec, au contenu, je les cite toujours, hautement inflammatoire, un individu d'ailleurs qui intéresse aussi le renseignement territorial français. Alors ces derniers mois, on ne compte plus les appels à renverser le gouvernement par la violence, à arrêter de juger les élus, à leur promettre la peine capitale, hein, on l'a tous vu. On a même eu en janvier 2020 un ex-militaire complotiste qui a enfoncé les grilles de rideaux là, à Ottawa avec son auto et des armes. Il voulait arrêter Justin Trudeau. Alors ce qu'on a vu à Ottawa, c'est quoi ? Des instigateurs du convoi, il y en a 3 qui ont été arrêtés d'ailleurs jeudi et vendredi, dont le profil est sans équivoque. Ils gravitent beaucoup dans la mouvance d'extrême droite ou de la droite alternative. En tête de liste, le fameux Pat King, connu pour ses idées suprémacistes. C'est lui qui avait dit, on va le rappeler, que la seule façon dont on va régler les mesures sanitaires, c'est avec des balles. Et il était là dans la manifestation. Il avait de nombreux adeptes dans la manif. Je l'ai vu personnellement prendre un bain de foule mercredi, se faire prendre en selfie. Il y avait aussi la fameuse Romana Didulo, là, qu'on peut penser un peu fantasque, une conspirationniste QAnon qui se présente comme la reine du Canada. ça. Elle a déjà été arrêtée par la GRC, l'unité antiterroriste de la GRC, pour avoir fait des appels au meurtre de ceux qui vaccinent les enfants. Et surtout, il y avait Jérémy McKenzie, Paul, ça c'est un vétéran de l'Afghanistan, le fondateur d'une milice qui s'appelle Diagolon, paramilitaire néo-nazi, antisémite et tout ce que vous voulez, là, qui veut provoquer une guerre civile. Il était sur plusieurs fois dans la manifestation près du monument aux morts. Or, dans les armes qu'on a saisies en Alberta, un arsenal de guerre, hein, je répète, hein, avec des armes automatiques, des chargeurs, il y avait une veste par balle qui portait un insigne de cette milice. Alors ça fait quand même beaucoup de choses qui permettent de relier ce mouvement, qui avait peut-être un fondement justifié au départ pour ceux qui veulent avoir une opposition légitime aux mesures sanitaires, mais qui est devenu un espèce de vivier pour toute l'extrême droite qui a vu là une façon de franchir une nouvelle étape dans son implantation au Canada, quoi.
Mais j'ajouterais, Fabrice, aussi qu'on a vu peut-être pour la première fois, disons, le financement étranger se manifester aussi directement. Autrement dit, là, on a affaire à des gens qui ont des appuis à l'extérieur du Canada.
Oui, parce que le GoFundMe qui a été gelé, mais après il a été remplacé, on le sait, par une plateforme qui est plus liée, aux sanctions au financement chrétien aux États-Unis, Gifts and Go, là. Ça, c'est une plateforme qui est très utilisée par les républicains et l'extrême droite américaine, entre autres, pour tout ce qui a mené au siège du Capitole. Eux, ils ont récolté la moitié des fonds venaient des États-Unis. Puis moi, j'ai commencé à regarder un peu la liste qui a coulé, là, des donateurs. Il y avait beaucoup de républicains, il y avait beaucoup, et des montants assez colossaux, quoi. Puis, il faut pas oublier aussi, Paul, qu'il y avait beaucoup de monde, ça, faut le redire aussi, beaucoup d'anciens membres actuels des forces de sécurité canadiennes. Moi, j'en ai vu, il y avait des membres du commandement des forces d'opérations spéciales, on sait qu'ils sont visés par une enquête de la défense. Puis il y a ce fameux Daniel Bulford, qui est un tireur d'élite, qui a été jusqu'à quelques mois, imaginez donc, chargé de la sécurité du Premier ministre et de Trudeau. Et lui, il a démissionné parce qu'il ne voulait pas être vacciné. Il était là aussi, quoi. Alors, et ça, on sait que l'infiltration des forces de sécurité par l'extrême droite, c'est quelque chose qui préoccupe beaucoup en Occident. Pourquoi? Ben, c'est clair, parce que c'est des gens qui ont une formidable formation, on va dire, pour la plupart, en armement, en explosifs. Donc, ils peuvent fournir une aide précieuse à ces groupes paramilitaires. Et c'est évident qu'ils ont aidé, parce que quand on voyait cette manifestation-là, elle était très bien organisée, Paul, avec des réseaux d'approvisionnement, des réseaux de financement, comme on a dit, des systèmes de communication cryptés. Donc c'est clair qu'on avait affaire non pas à des camionneurs qui ont décidé comme ça du jour au lendemain d'aller à Ottawa pour réclamer l'annulation des mesures sanitaires, mais quelque chose qui était beaucoup plus inquiétant, quoi.
Quand tu parles de Bulford, juste peut-être une précision. Hier, on a su qu'il fait partie du groupe d'intervention qui peut entourer M. Trudeau quand la menace est plus élevée. Alors, ça montre quand même le poste stratégique que ce gars-là occupait là, avant de quitter.
Oui, tout à fait. Et puis là, il était responsable de la logistique. Puis ce que j'ai constaté aussi, parce que j'étais très près, j'étais dans la manif pendant plusieurs jours, quand il y a eu l'assaut des forces de sécurité, en arrière de l'anti-émeute, il y avait l'unité tactique de la GRC, donc des personnes qui sont très très bien formées, dignes des forces spéciales militaires. Et on voit qu'ils avançaient avec précaution, c'était eux qui étaient chargés d'inspecter les cabines des camions quand on avait extrait parfois de force les chauffeurs pour vérifier effectivement s'il n'y avait pas des armes ou des engins explosifs, quoi. Parce que avec ce qu'on avait vu en Alberta, c'était quelque chose de possible. On sait qu'on a saisi des armes sur le barrage à Ottawa, le chef de police l'a dit, mais apparemment c'était plus des fusils de chasse. Mais il y a des enquêtes encore en cours à ce sujet, quoi. Donc il y avait vraiment une réelle inquiétude que ça vire en affrontement armé, quoi.
Merci Fabrice. Bonne journée.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. De retour après la pause. L'Essentiel de Paul Arcan. Tout ce que vous devez savoir en moins de 60 minutes.
Alors, Bénédicte, on le disait au début de l'émission, deux femmes qui ont été assassinées, deux féminicides au cours de la fin de semaine. D'abord, à Laval, c'est un homme qui aurait tué sa conjointe avant de s'enlever la vie.
Ouais, samedi soir, il y a un des fils du couple qui, lui, était inquiet de pas avoir des nouvelles de ses parents, s'est présenté à la maison sur le boulevard de Blois, dans le secteur de Duvernay, à Laval. Et malheureusement, il a découvert une scène horrible. Il a retrouvé ses deux parents sans vie. Et en arrivant sur place, les policiers ont constaté le décès de la femme de 71 ans, Maria Cristovao, et de Jao Marquez, 64 75 ans. Et selon les policiers, il s'agirait d'un meurtre suivi d'un suicide. Le corps de la femme qui portait des marques de violence. Et selon ce que j'ai pu apprendre, ben, l'homme aurait possiblement eu un épisode de démence ou de délire. Là, c'est pas encore clair, mais avant les événements, c'était quand même un couple sans histoire. C'est ce que le voisinage, qui se connaît depuis très longtemps, le maudit. J'ai parlé avec Lorraine, entre autres, qui est voisine du couple depuis plus d'une trentaine d'années.
Quand on a vu, nous, les bancs de neige puis les bacs, on a douté qu'il y avait quelque chose. Quand j'ai entendu ce matin que c'était peut-être un féminicide, je ne pouvais pas m'imaginer ça de lui, pas du tout. Surtout de la façon dont il en prenait soin aussi, là, quand elle marchait doucement pour se rendre à la maison, il la suivait tranquillement.
Quand on disait les bancs de neige et les bacs, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de neige qui était tombée. Aucune, l'allée avait pas été déneigée. Les bacs étaient un peu pêle-mêle sur le terrain. Donc, ça soulevait un peu d'inquiétude chez les voisins. Et malheureusement, ça s'est confirmé. Maintenant, autre drame, cette fois à Donham, en Estrie, vendredi soir. C'est aussi le fils d'un homme qui a appelé le 911 pour son père. Parce que son père était en crise. Son père était armé et menaçait de s'enlever la vie. Et quand les policiers sont arrivés dans la résidence sur la rue Lanier, ben, ils ont trouvé le corps de Patricia Rao, à 59 ans, et Frédéric Lynn Blair, 63 ans. Et là aussi, c'est ce qui se confirme, semble-t-il, que l'homme aurait tué sa femme, la femme, avant de s'enlever la vie. On se rappelle qu'il y avait quand même eu 26 femmes qui ont été tuées en 2021. On en a parlé beaucoup, la majorité dans un contexte de violence conjugale. Depuis le début de l'année, on n'en avait pas vu trop de cas, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Et ce n'est pas seulement chez les jeunes. C'est ce qui a frappé en fin de semaine, parce que c'est des personnes qui sont un petit peu plus âgées. Et Chantal Arsenault, qui est porte-parole du regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale, m'expliquait qu'il y en a aussi, la violence conjugale, chez les personnes plus âgées, mais qu'elle est parfois moins dénoncée.
Les deux femmes, en fait, c'est des femmes plus âgées. On a eu beaucoup l'habitude d'essayer de rejoindre les jeunes, mais il faut que les femmes qui sont dans des relations plus longues ou elles qui sont plus âgées, nos maisons sont aussi là pour elles.
C'est d'une tristesse. Puis en plus, à Québec, il y a un meurtre, encore une fois, d'une femme qui a été évitée de justesse.
Oui, on va le dire, un autre féminicide qui a été évité. Il y a un homme de 20 ans, Nathan Kevin Zonen, qui a été arrêté pour tentative de meurtre à l'endroit de sa conjointe de 28 ans. Ça s'est passé vendredi soir dans un immeuble à logement du secteur de Sainte-Foy. Les policiers qui ont reçu des appels parce que, bon, ça brassait dans un des logements. Et selon ce qu'ils ont pu déterminer, c'est que l'homme aurait agressé physiquement la femme, en plus de la séquestrer, de la menacer de mort. Elle a réussi à se réfugier dans un endroit plus sécuritaire. Elle a contacté, elle aussi, les policiers et on me dit qu'il s'en est fallu de peu. Elle a été transportée à l'hôpital pour soigner des blessures. L'homme n'était plus là quand les policiers sont arrivés, mais ils ont finalement pu le localiser le lendemain. Il a comparu pour des accusations de tentative de meurtre, agression armée, séquestration, voie de fait, proféré des menaces. Et j'ai fouillé un petit peu dans le dossier et c'est assez surprenant parce qu'il y a ce même genre d'événement qui était survenu le 29 janvier. Mêmes accusations, agression armée, menace de mort, possiblement dans le même dossier.
L'homme
Le 29 janvier dernier, l'homme avait été remis en liberté le 8 février. Alors, tu sais, quand on parle de ces fameux bracelets anti-rapprochement,
ouais.
Je pense que ça va être nécessaire plus tôt que tard, disons.
L'essentiel de Paul Arcand. Tout ce que vous devez savoir en moins de 60 minutes.
Je reviens sur ce documentaire. J'en ai parlé plus tôt ce matin qui portait de corruption et qui porte sur la commission Charbonneau. Donc, vous avez 5 épisodes où on revoit en accéléré les grands moments de la commission, les moments forts de l'enquête. Et ça amène, je vous le dirais, même quand on a suivi ça de très près, pas mal de réflexions. Maître Denis Galland, qui était le procureur, évidemment, pendant les travaux de la commission, est avec nous. Bonjour, Denis.
Bonjour, Paul.
C'est vrai qu'en voyant ça en accéléré, de revoir bon les témoins clés, là, les Lino Zambito... Également les différents dirigeants de firmes de génie. T'as une expression dans le documentaire, là, en disant ils étaient arrogants, c'est-à-dire que de la corruption comme ça, organisée, ça se faisait pratiquement, là, je dirais pas en plein jour, mais ils étaient pas nerveux, étaient pas achalés, pas inquiets.
Pas du tout, parce que c'était, je veux dire, t'avais du haut de la chaîne jusqu'en bas, tout le monde faisait fonctionner le système, puis ceux qui dénonçaient ce système-là, ben je veux dire, t'avais une attitude mafieuse à leur endroit. Puis écoute, je m'en suis souvenu quand j'écoutais également hier en accéléré des reportages, le pauvre vérificateur général qui était là à l'époque,
Jacques Bergeron,
lui, il l'a appris à la dure parce qu'effectivement, écoute, il se battait contre une machine qui se défendait et il était tout seul et ça l'a rendu malade, ça, là. Puis moi, je me souviens, quand j'ai été nommé inspecteur général, j'ai eu Jacques terminait son mandat, il y a eu quelques années, et il m'expliquait les difficultés, les embûches. Écoute, ils ont espionné ses courriels. C'était, je te dirais, c'est comme la ville était aux mains de bandits. C'est à ça que j'arrive comme conclusion, là.
Incroyable. Mais en même temps, il y a eu des signaux, là. Je pense au ministère des Transports, je pense à des gens qui ont quand même... Jacques Bergeron, ce que je veux dire par là, tu dis c'est une corruption, des tentacules qui se sont installés. Puis pourtant, il y a des gens... Je prends le financement, le plus bel exemple. Je me souviens de reportages à Radio-Canada sur le financement de Pierre Bourque, Vision Montréal. Des entrepreneurs mettaient de l'argent dans un chapeau à l'entrée de la salle. Ça a toujours été là, ou presque?
Absolument, absolument. Puis il y avait des lois, mais ces lois-là, je veux dire, ils étaient contournées, puis c'est comme si ça n'existait pas. OK? Puis écoute, puis les institutions en place, puis je m'excuse que je vais dire, là, je vais peut-être me faire lancer des tomates, mais je veux dire, ils ne faisaient pas leur travail. Je pense au DGEQ à l'époque, qui effectivement, André Noël parle dans le reportage que, je pense, dans 24 heures, ils sont allés faire du porte-à-porte facile, là. Ils ont regardé les donateurs, ils ont regardé des noms, monsieur, madame, tout le monde qui donnait 1 000 $, puis ils donnaient l'exemple, genre, la personne qui fait 30 000 par année qui va aller donner 1 000 piastres au municipal, ça ne faisait pas de sens. Puis ils sont allés cogner, pour dire, ben non, moi, j'ai été remboursé dans un compte de dépenses, l'autre, la même chose, puis effectivement, on avait des lois qui n'étaient absolument pas respectées, puis en plus, à des places, il n'y avait pas d'organisme de surveillance, puis ceux qui étaient en place, ben, il n'y avait pas de moyens, bien évidemment, là.
Je veux t'entendre sur un aspect que je trouve important, parce que après la commission, on vient de le dire, Bureau de l'inspecteur général, Autorité des marchés publics, et je regardais ça hier, puis je me dis, les Hells, ils ont besoin de blanchir, la mafia a besoin de blanchir, on comprend qu'il y a eu des changements de loi, création d'organismes. Mais c'est sûr qu'il y a encore des gens là qui ont besoin de la construction pour blanchir de l'argent puis qui doivent développer des stratagèmes.
C'est sûr, mais possiblement, effectivement, comme tu l'as dit, c'est que ça redevient plus caché, ça devient possiblement plus marginal. Là, ce qu'on avait, c'était une corruption à grande échelle, puis il se cachait même pas. Moi, je me souviens, j'ai interrogé, puis écoute, il y avait des projets, puis on le voit dans le reportage, puis nous, on y a eu accès à la commission Charbonneau, il y avait des projets d'écoute électronique, par exemple, dans Colisée, où est-ce qu'on avait un objectif d'enquête, et ce qu'on faisait, c'est qu'on enquêtait, par exemple, les dirigeants du crime organisé italien à Montréal, dans le cadre de la drogue et du bookmaking. Mais tout ce qu'il y avait, toute la preuve qu'il y avait amassée, qui aurait pu nous donner, ou aurait pu, effectivement, partir d'autres projets en matière de corruption, par exemple, de fonctionnaires, ou de collusion, ça a été gardé dans des voûtes, puis, je veux dire, dans le reportage, ils ont été très polis, mais en tant que tel, il a fallu, nous autres, qu'on se batte à la cour, qu'on aille à la cour, pour qu'on obtienne un jugement de la Cour supérieure pour avoir droit à l'écoute électronique, puis aux vidéos qu'on a vues, là, dans le reportage, là. Ça n'a pas été facile, ça, Paul.
Incroyable. Merci, Denis. Bonne journée.
Ça me fait plaisir.
Au revoir.
C'est 23.